Afrique Matin sur RFI. Pierre Boudias.
Et nous sommes ensemble jusqu'à 5 heures à suivre suite et fin de notre série de reportages sur l'épidémie de choléra au Soudan du Sud. La maladie frappe particulièrement certains quartiers de la capitale Juba et la présence d'une immense déchetterie à ciel ouvert n'y est peut-être pas pour rien, vous l'entendrez. Comme tous les dimanches, nous emprunterons les chemins de l'écriture. Ils nous mèneront d'ici une vingtaine de minutes à la rencontre de l'autrice martiniquaise Gaëlle Octavia et puis de la musique. Pour finir avec le choix de la playlist RFI entre Soul et R&B aujourd'hui. En attendant, il est toujours 4h42 en temps universel. Merci d'écouter RFI. Tout de suite, les sports. Et c'est avec vous, Antoine Grenier, bonjour.
Bonjour Pierre.
En football, la première ligue tenait une nouvelle star égyptienne?
Pas encore au niveau d'un Mo Salah, mais Omar Marmouche a clairement marqué les esprits. L'Égyptien a débloqué son compteur avec Manchester City en signant un triplé en moins d'un quart d'heure face à Newcastle. Un carton 4-0 dans le cadre de la 25e journée pour seulement le 4e match de Marmouche en Angleterre. Lui qui est arrivé en janvier pour plus de 70 millions d'euros. Le ballon sous le bras, comme la tradition l'exige, l'attaquant de 26 était au sourire.
Yeah, amazing day. The feeling is crazy.
C'est une journée incroyable, une sensation folle. C'est le premier triplé de ma carrière, donc ça me fait vraiment plaisir, d'autant que ça nous permet de prendre les 3 points. Dès la première minute, nous étions concentrés pour faire le job, on l'a bien fait. Tout est allé si vite, je suis ravi d'avoir aidé l'équipe. Je remercie mes coéquipiers, l'entraîneur, le staff. Tout le monde m'a accompagné dès le premier jour et m'a intégré comme si je faisais partie de la famille. Ils m'ont aidé à faire mes preuves et à réaliser une telle prestation. Ce n'est que le début et nous allons nous projeter sur les prochains matchs.
Looking forward to the next games.
Omar Marmouche chez nos confrères de Sky Sports, City 4e de Première Ligue et en confiance avant son barrage retour de Ligue des Champions.
En Ligue 1 française, fin de la 22e journée avec en conclusion un Rennes-Lille qui devrait être très suivi au Sénégal.
Hier, les favoris ont gagné. Paris a dominé Toulouse 1-0. Marseille l'emporte 5-1 sur Saint-Etienne et Monaco cartonne en s'imposant 7-1 sur Nantes. Et ce dimanche, donc, Rennes accueille Lille pour le 3e match d'Habib Bey sur le banc rennais. Après 2 victoires, l'ancien Gaïndé a fait remonter Rennes à la 12e place. Des débuts réussis qui suscitent un grand engouement au pays du technicien Warani Johnson-Sambou.
Stade Rennais, ouais, parce que c'est Habib Bey, c'est un compatriote, on le suit partout.
On est certes loin de la passion autour de l'Olympique de Marseille ou du Paris Saint-Germain, mais le Stade Rennais voit sa cote de popularité grimper au Sénégal depuis l'arrivée d'Habib Bey sur le banc de l'équipe première. À Dakar comme ailleurs dans le pays, Rennes a conquis les cœurs.
En tant que Sénégalais, je le soutiens à 100%. Il a apporté un plus parce que Rennes n'était pas bien. Dès son arrivée, ils ont enchaîné 2 victoires.
Je pense que je vais désormais suivre vraiment cette équipe et le supporter à fond.
Désormais, chaque sortie des Rennais est scrutée à la loupe par les Sénégalais. Et les débuts en fanfare de l'ancien défenseur des Lions façonnent davantage son image et suscitent une grande euphorie dans les médias et sur les réseaux sociaux. Papou Mar Diop, coach dans une académie de foot à Dakar, voit grand pour le technicien sénégalais.
Au Red Star, on le suivait parce avec ses idées, même sur les chaînes qu'il faisait consultant, il était pertinent dans ses interventions. S'il arrive à transmettre ça aux joueurs, il fera du bon boulot et on le souhaite tout le bonheur qu'il réussisse sa mission là-bas.
Pour rappel, avant l'arrivée d'Habib Bey, le Stade Rennais restait sur une série de 5 défaites consécutives. Une 3e victoire de suite ce dimanche renforcerait encore l'engouement autour du technicien sénégalais, d'autant plus face à Lille qui est d'un autre calibre que Strasbourg et Saint-Etienne. Wahani Johnson-Sambou, Dakar, RFI.
Rennes-Lille, coup d'envoi 19h45 temps universel, un dimanche de Ligue 1 qui compte en tout 5 matchs et débutera à 14h temps universel avec Montpellier-Lyon.
Antoine Grenier pour les sports, merci à vous d'écouter RFI, nous sommes le dimanche 16 février. Et à la une de l'actualité, le chef de la diplomatie américaine réaffirme l'engagement du président Trump de mettre fin à la guerre en Ukraine. Marco Rubio s'est entretenu tout à l'heure au téléphone avec son homologue russe avant de prendre la direction de Jérusalem pour son premier déplacement dans la région depuis sa prise de poste. Il doit rencontrer aujourd'hui le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, alors qu'hier, le processus d'échange de prisonniers palestiniens contre des otages retenus par le Hamas s'est poursuivi avec la libération de 3 otages israéliens contre 369 prisonniers palestiniens. Enfin, à Addis Abeba se poursuit aujourd'hui le sommet de l'Union africaine. Hier, c'est le ministre des Affaires étrangères de Djibouti, Mahamoud Ali Youssouf, qui a été élu à la tête de la commission de l'UA. Il commencera le mois prochain son mandat de 4 ans. Et alors que le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, occupe désormais une partie des provinces des Nord et Sud Kivu, le secrétaire général des Nations Unies a une nouvelle fois mis en garde contre le risque d'escalade vers un conflit à l'échelle de la région. Témoignage d'un habitant de Bukavu à retrouver dans nos différents journaux. Retour à Juba, maintenant au Soudan du Sud, sur RFI. Troisième et dernier volet de notre série sur le choléra dans le pays, et plus particulièrement dans sa capitale. Dans certains quartiers, l'épidémie dure depuis octobre 2024, malgré une campagne de vaccination. C'est notamment le cas du quartier de Jebel Timane, en plein milieu duquel se trouve une immense décharge, considérée par les habitants comme la cause de la persistance de l'épidémie dans leur quartier. Problème, cette déchetterie représente aussi une source de subsistance pour des centaines de personnes, des récupérateurs de déchets qui n'ont aucune autre opportunité et risquent leur santé pour survivre. Florence Mietto est allée à leur rencontre.
Des monticules de déchets fumants s'étendent à perte de vue. Sur les collines qui entourent la déchetterie, on voit scintiller les toits en tôle des habitations. Établie en 2008, cette décharge a un temps été bien gérée, fermée d'une barrière, avec un bulldozer pour compacter les détritus. Mais depuis les combats de 2013 et 2016, les travaux de maintenance sont à l'arrêt. Seuls les récupérateurs de déchets s'affairent là tous les jours. À l'arrière du camion d'une entreprise de recyclage, on pèse les énormes sacs remplis de bouteilles en plastique ramassées par les récupérateurs. Angelina, 45 ans, vient tous les jours travailler ici depuis 5 ans, malgré les risques.
Je crois que certains ont eu le vaccin contre le choléra, mais pas moi. Bien sûr que je voudrais le recevoir pour me protéger, car cette maladie est vraiment grave et dans les ordures, vous pouvez l'attraper très facilement. C'est là qu'on attrape le choléra.
Un peu partout sur cette étendue de déchets, des petits groupes de récupérateurs se protègent du soleil sous des abris de fortune. Des piments ramassés dans les détritus, étendus sur un bout de carton, sèchent au soleil près de la tente d'Anek, 30 ans, mère de 7 enfants.
Tous ici, nous cherchons de la nourriture dans les déchets car nous souffrons et n'avons rien à manger.
Entre deux bouchées de pain ramassées dans les ordures, son ami Abouk, 27 ans, mère de 5 enfants, renchérit.
Si vous trouvez des oignons, de la farine, de la nourriture de la veille ou de l'avant-veille, vous les mangez. Ici, on ne pense pas aux maladies car on a faim. Si nous avions assez à manger, nous ne serions pas ici.
Abouk pense à tort que le choléra ne représente plus un danger puisqu'elle a reçu le vaccin. Joseph Moré, le représentant des jeunes de Jebel Timane, rappelle que l'épidémie de choléra reste une menace, même si 6000 personnes ici ont été vaccinées.
La vaccination n'a été faite que pour les personnes présentes à ce moment-là, mais nous avons des gens qui viennent de l'extérieur, des camps de bétail, des villages, et tous ceux-là ne sont pas vaccinés.
Un risque de propagation de l'épidémie existe donc du fait de la mobilité des Sud-Soudanais entre la capitale et les zones rurales. En outre, du fait du manque de vaccin contre le choléra, une seule dose au lieu de deux a été administrée. Florence Mietto, Djouba, RFI.
Et les trois reportages de Florence Mietto sur cette question du choléra au Soudan du Sud sont bien sûr à retrouver sur RFI.fr. Un peu de rire, un soupçon d'ironie et une passée de fantastique. C'est la recette des 16 nouvelles qui ont vu le jour sous la plume de la talentueuse écrivaine martiniquaise Gaëlle Octavia, auteure de théâtre, romancière, nouvelliste. Cette dernière a plusieurs cordes à son arc, mais elle s'est fait connaître en publiant en 2017 son premier roman, La fin de Mame Babi. Son recueil L'étrangeté de Mathilde T et autres nouvelles qui vient de paraître aux éditions Continent Noir est au menu de Chemin d'écriture ce dimanche. Et c'est avec vous, Tyr Tankar. Chanda, bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Bonjour, donc pour commencer, la voix de l'autrice.
La nouvelle, c'est vraiment un genre littéraire que j'aime beaucoup. Certaines des nouvelles de ce recueil ont été écrites il y a un certain nombre d'années, d'autres sont très récentes. J'ai sélectionné parmi toutes les nouvelles que j'ai écrites, celles qui me semblaient avoir un fil directeur commun finalement, qui est cette étrangeté des situations ou des manières dont les personnages font face à certaines situations.
Ainsi parle Gaëlle Octavia, auteure de L'étrangeté de Mathilde T et autres nouvelles qui vient de paraître ces jours-ci. Les 16 nouvelles que compte ce recueil sont autant de diamants taillés, denses, lumineux d'observation sur la société martiniquaise, ses hommes et ses femmes. Il s'agit ici surtout de femmes, car la plupart des nouvelles sont centrées autour des figures de femmes au bord de crise de nerfs. La nouvelle inaugurale qui a donné le titre du recueil illustre tout l'art de cette autrice. En fait, Gaëlle Octavia pratique un art de narration au second degré. Mathilde T, la protagoniste de sa première nouvelle, est l'héroïne d'un roman raté. À travers les excès, la fragilité, sa manière de se situer de façon décalée par rapport au monde dans lequel celle-ci évolue, l'auteur raconte sa propre négritude, son être dans le monde réduit à son accent martiniquais et à son exotisme sévèrement jugé par le monde blanc dans lequel elle a choisi de vivre. Gaëlle Octavia.
Ce personnage de Mathilde T m'est venu lors de mon arrivée à Paris, puisque moi j'ai grandi en Martinique, je suis arrivée à Paris après le bac pour faire mes études. C'est une nouvelle qui est, on va dire, semi-autobiographique. Je me suis heurtée à un double décalage, c'est-à-dire le décalage de ma propre perception de moi-même en tant qu'issue d'un département d'outre-mer français. Donc en gros, j'ai grandi en me pensant française et j'ai découvert à Paris que j'étais peut-être pas si française que ça. Et puis l'autre décalage, c'était que cette étrangeté qui était la mienne finalement, dans le regard des autres, elle m'allait très bien. L'étrangeté est à plusieurs niveaux dans cette nouvelle, et je me suis beaucoup amusée, j'avoue, à l'écrire.
Tirthankar, les femmes semblent occuper dans ces nouvelles une place centrale.
Profondément marquée par les lectures de Maryse Condé, de Toni Morrison ou encore de Marguerite Duras, Gaëlle Octavia a fait de son écriture un véritable panthéon dédié aux femmes de son pays et à leur combat contre la société patriarcale. Gaëlle Octavia.
Moi, je me définis absolument comme une féministe. Le point de vue féminin, ça c'est très présent dans mon éducation. J'ai grandi dans un foyer avec un père très présent. C'était un père qui s'occupait de ses enfants. Quand je sortais de chez moi, je voyais beaucoup de foyers où c'était pas ça. Ou notamment beaucoup de foyers où il y avait tout simplement pas de père. Ça m'a très vite amenée à m'interroger sur ce que ça signifiait, tous ces foyers sans père, ce mythe notamment du potomitan que je m'applique à déconstruire de texte en texte. Il y a vraiment ce mythe de la femme qui porte sa famille et qui porte la société d'une certaine manière et qui serre les dents et qui ne pleure pas. Et moi, je voyais beaucoup de femmes qui n'y arrivaient pas, qui déprimaient. Pour moi, c'était une urgence d'évoquer ça.
C'est sans doute ce qu'on appelle la littérature engagée. La fidélité sans faille de Gaëlle Octavia aux femmes de la Martinique se lit jusque dans les titres de ses ouvrages. Ce n'est sans doute pas accidentel si son premier roman s'appelle « La bonne histoire de Madeleine Demetrius », suivi de « La fin de Mam Baby », titre de son second roman. Et c'est le nom d'une certaine Mathilde T qui orne la couverture de son Anthologie de nouvelles.
Tirthankar, Chanda, l'étrangeté de Mathilde T et autres nouvelles est donc à retrouver aux éditions Continent Noir. En 4h54 en temps universel, on va continuer à parler de création dans RFI Matin à la rencontre d'un artiste qui n'utilise pas les mots mais la céramique pour explorer son héritage familial et son expérience personnelle. L'Algérien Toufik Boumedi qui a su créer un style unique alliant influence européenne et maghrébine. Ses pièces aux lignes simples et arrondies expriment une recherche d'harmonie et de beauté tout en rendant hommage à ses racines. Maria Afonso l'a rencontré lors de son passage à Paris où une exposition présente une partie de ses œuvres, des pièces de décoration intérieure colorée et chaleureuse.
Les plus belles réalisations, c'est que j'étais libre de faire. Quand on vous dit « je vous fais confiance », là, il y a une pression quand même. Mais j'y vais, j'ai pas peur. Il faut que ça corresponde déjà à ma vision. Et si ça correspond à la vision du propriétaire, alors là, c'est le grand bonheur.
Toufik Boumedi, artisan d'art, céramiste et faïencier.
Je ne crois pas avoir été souvent vraiment satisfait de mon travail. Je me dis toujours, il y a un petit truc à faire en plus.
Né dans le village de Berouaghia, à 100 km d'Alger, en Algérie, Toufik Boumedi a grandi au contact de la céramique grâce à son père, Mohamed Boumedi, surnommé le carreleur du ciel. Celui-ci a joué un rôle fondamental dans sa passion et son parcours professionnel. Ses études aux arts décoratifs à Limoges et ses voyages à travers le monde ont profondément influencé le travail de Toufik Boumedi, lui permettant de mélanger différentes cultures et styles dans ses créations.
C'était pas pour apprendre plus de choses, mais c'était surtout pour me dissocier un peu de sa façon de voir la céramique et donc de faire mon parcours. Entre ce qu'il m'a appris et ce que j'ai appris, ça a fait une céramique qui m'est personnelle. J'ai appris beaucoup avec les rencontres, ce que j'ai vu des autres. Ça va jusqu'au 9e siècle, jusqu'à la céramique turque, en passant par la céramique espagnole, italienne, française. Après Limoges, j'ai remarqué que ma céramique, il y avait un côté européen, un côté maghrébin, tout ça, c'était ce mélange de tout ce qui m'a plu, tout ce qui m'a touché, c'est un peu universel.
Toufik Boumedi considère chaque commande comme un défi et une opportunité d'exprimer son art.
Il y a quelqu'un qui vient me voir, j'ai une façade, j'ai un meuble, et là je regarde et je me dis, il n'y a pas assez de lumière, il faut quelque chose de lumineux. Si je vois qu'il y a beaucoup de couleurs, il faut essayer d'en mettre moins. Des fois c'est floral parce que c'est un style qu'il demande. Des fois quand je vois une maison mauresque, bon là je me régale, c'est aussi moi ma spécialité. Donc je vais sur des fresques avec beaucoup d'arrondis. Ma particularité c'est que je mets pas énormément de couleurs. Je travaille beaucoup avec les bleus, les turquoises, très peu de jaunes. C'est des couleurs de mes ancêtres dans la céramique. C'est des oxydes métalliques, donc du cobalt, du cuivre, du chrome, le bleu de Delphes. Mais quand on me demande des choses qui me semblent pas me correspondre, je botte en touche des fois, ça m'arrive.
Retrouvez l'univers de Toufik Boumedi sur RFI.fr, chronique 100% création, et en podcast sur RFI Pure Radio.
Merci à vous, Maria Alfonso, pour 100% création. Et puis on termine en musique. Comme promis, elle s'appelle Julia Cagnac, alias Enchantée Julia, une jeune artiste française. Un timbre de voix chaud et caressant, non dépourvu de sensualité. Enchantée Julia, c'est surtout un mélange de soul et de R&B. 11, c'est le titre de son nouvel album, mais aussi celui de son duo avec son compagnon de vie, le rappeur Prince Wally. On l'écoute.
Des centaines de fois, premier rendez-vous, c'était cool. On s'est tourné autour, c'était fou. C'est arrivé, j'ai dû prier du haut de mes genoux. Puis t'es arrivé, comme au ciné, as-tu rêvé de nous? Premier rendez-vous, c'était cool. On s'est tourné autour, c'était fou.
Hey. Yeah, elle est tombée love de tous mes défauts. Je suis arrivé dans son cœur comme un bad boy dans le défro. Yeah. Je pensais que j'avais pas de cœur, mais c'était faux. Les yeux revolvers, elle m'a tiré dessus comme des fous. Baby, nos cœurs sont comme de forcément. On s'attire forcément, je suis comme le vin. Niveau comportement, je me bonifie fortement. Direction Vénus, je suis à l'embarquement. Et on finit par se manquer. J'ai mis les voiles de 93 jusqu'à ton appartement. Premier date, premier rendez-vous. Baby, ton parfum me rendait fou. J'ai perdu mes moyens, j'étais dans le flou. J'ai vendu mon cœur quand j'étais dans le fou. Entre nous, c'est sérieux. Depuis mes sentiments vont désobéir.
Que ferais-tu si t'avais le choix? Je commencerais des centaines de fois. Premier rendez-vous, c'était cool. On s'est tourné autour.
De l'artiste enchantée Julia en duo avec le rappeur Prince Wally qui vient clôturer cette édition d'Afrique Matin. Merci à Xavier Besson à la rédaction en chef. Laurent Hérault était à la technique. Prochain point sur l'actualité africaine dans une demi-heure. Tout de suite, dans un instant, c'est RFI Matin avec Julien Coquel-Rohem.